C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, tout le monde à peu près s'entend pour recommander fortement l'utilisation du masque dans les espaces publics. Et là, la santé publique est en réflexion. On devrait avoir un point de presse, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, là. Mais la question est simple. On le recommande ou on l'oblige? Nathalie.
Ben, si je suis un médecin qui pratique dans une urgence pédiatrique ou une personne immunosupprimée, probablement que dans mon fort intérieur, je rêve d'un gouvernement qui obligerait le port du masque. Mais si je suis le ministre de la Santé, je vais probablement tenter résister à cet appel lié à l'obligation du port du masque dans les lieux publics. Pourquoi? Parce que le masque au Québec, ça divise. J'ai envie de vous dire, ça divise encore. Petite anecdote, hier, on a fait un sondage dans l'émission sur la question était toute simple. Est-ce que vous êtes prêt à suivre la recommandation du Collège des médecins qui est celle de porter le masque en public? Puis croyez-le ou non, c'était 50-50. C'est la première fois que je voyais ça. Là, c'était très, très tranché. Là. Alors, pour ceux et celles qui trouvent des vertus au masque, bien, ils n'ont pas besoin du gouvernement ou d'une recommandation de la santé publique pour le porter. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans certains endroits, les gens le portent déjà. Pour ceux et celles qui affichent encore une résistance liée au masque, par le masque, pour eux, c'est le symbole de l'oppression, de l'État et de la santé publique. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas aux vertus du masque. Pour ceux-là, peu importe ce que tu vas dire, le masque va toujours être un outil qui n'est pas indispensable à la lutte qu'on mène actuellement contre l'émergence de virus. Conclusion, autant sous l'angle de la santé publique que sur le plan politique, je crois qu'on devrait demeurer dans une dynamique de recommandation plutôt que d'obligation.
Luc. Moi, je pense que ça va être un mix, ça va être un cocktail. Il va y avoir évidemment juste recommandation, ce qui veut dire que recommandation, ça peut pas fonctionner. Là. Ça veut rien dire. On recommande de pas fumer, on recommande de pas boire au volant.
Une forte recommandation, Luc.
Une forte recommandation. Ça veut rien, fortement rien dire non plus. Parce que le masque, ça fonctionne si tout le monde le porte. C'est-à-dire que, et ça fonctionne en combinaison avec la distanciation, l'aération, etc. Le masque chirurgical, si tu es tout seul à le porter, ça ne te protège pas. Ça te protège pas. Les gens, ils pensent ça, puis ils le portent pour ça, mais ça te protège pas. Un N95, ça te protège, mais un masque chirurgical, faut que tout le monde le porte pour que ça ait un impact. Alors, à mon avis, une recommandation, ça veut absolument rien dire. Par contre, je pense qu'il va y avoir des obligations ciblées. Alors, on oublie qu'il y a une obligation ciblée de porter le masque dans les transports ferroviaires et aériens jusqu'à tout récemment. Là. C'était ciblé.
On s'est renseigné hier au cabinet du ministre de la Santé pour qu'il l'impose, le port du masque, il faudrait retourner en urgence sanitaire.
C'est une étape à franchir, ça.
Ouais,
ils aimeraient ça, eux autres.
Ben, peut-être, là, mais je suis pas sûr qu'ils ont les conditions réunies pour...
C'est ça. Mais ça, c'est le point, regarde.
Mais tu pourrais, par exemple, le recommander fortement, là, ce qui risque d'être ça. Puis après ça, toi, tu es, je sais pas, directeur d'un collège, tu aurais le droit de dire, ben moi, je l'impose. Ah. Ils peuvent pas faire de mur à mur, c'est ce qu'on nous dit.
C'est ce que je pense. Moi, je pense que dans les classes, par exemple, si jamais le corps professoral, enseignant, commence à diminuer fortement, elle frappe en mot, t'as dit, là, la grippe chez les enfants, là, vraiment fort, là, ceux qui ont des enfants, là, vous le voyez autour de vous. Donc, si le nombre de professeurs commence à manquer, je pense que ça pourrait être une recommandation. Dans les classes, dans les avions, les trains, je pense qu'il y a certaines RPA, peut-être, par exemple, s'il y a 2-3 cas de COVID reconnus positifs, de dire dans cette RPA-là, pendant qu'il y a des cas de COVID positifs, c'est obligatoire, mais ça sera jamais obligatoire pour toute la population, pour la bonne raison que, rappelons-nous pourquoi on a posé l'obligation de porter le masque, c'était d'abord parce que le système de santé était débordé, mais il y avait aussi beaucoup de mortalité, il fallait faire blocage pour protéger une partie de la population de décès. Là, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Il y a 12 décès hier, là, mais on n'est pas dans les hautes statistiques de décès. Est-ce qu'on va porter le masque juste pour pas pogner la grippe? Oui, non. Certainement, mais ça ne peut pas être obligatoire.
Ouais, mais oublie pas, Luc, qu'il y a des cas très aigus là, de détresse respiratoire chez les jeunes enfants. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. J'entendais le docteur Quach à ton micro, là, Paul, parler de concomitance dans les virus actuellement qui circulent, ce qui crée une espèce d'intensité sur le plan viral là, à laquelle on n'est pas habitué. Mais au-delà de la recommandation, de l'obligation, il y a un travail qui doit être, un exercice qui doit être refait par la santé publique, selon moi, c'est celle liée à la sensibilisation. Il faut rappeler pourquoi c'est intéressant, c'est important de porter le masque. Il y a encore aujourd'hui des parents qui envoient leurs enfants à l'école alors que les enfants ont de la fièvre. Même chose, des enfants qui se retrouvent en garderie, qui sont envoyés dans les garderies parce que les parents, bon, ils peuvent pas prendre une journée de congé.
Ça, Nathalie, c'est facile à faire. Tu sais, Nathalie, ça, c'est un classique. Gorgée de thème propre. Non, t'es correct, tu t'en vas à l'école.
Oui,
parce que moi, je vais aller au travail ou parce que moi, je veux absolument pas passer une journée à la maison. Là. Ça arrive tout le temps. Là.
Je sais, Luc, ça arrive absolument. Sauf que dans le contexte actuel, on s'entend que c'est pas l'idéal. L'autre chose, c'est que quand les médecins nous disent dans les urgences pédiatriques que la situation va se détériorer, j'ajouterais à leur argumentaire que la saison, entre autres, un exemple, OK, la saison des tournois de hockey qui vient de commencer. Hier, il y a une grand-maman qui écrit à l'émission pour dire on était à Victoriaville en fin de semaine passée. Les enfants toussaient. On est tous ensemble dans le même resto. Les enfants pataugent en piscine en après-midi pour s'amuser. Les parents fréquentent le même hôtel. Ça circule entre les chambres d'hôtel. Ça, c'est un exemple très concret là, que je vous donne là, qui va probablement contribuer à ce que ça explose les cas de virus chez les enfants. L'autre élément que je déplore, c'est que là, on n'a aucune donnée par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Les seuls témoignages qu'on reçoit, c'est les parents qui écrivent, écoutez, mon enfant, je retourne ma petite ou mon petit avec son masque en classe. Il y a la moitié de la classe qui est absente. Les professeurs sont absents. Les concierges nous écrivent pour dire qu'ils entendent les enfants tousser, tu sais, puis ça tousse. Mais ça serait intéressant d'avoir des données un petit peu plus concrètes, là.
Mais comment les rassembler, ces données-là? On n'est même pas sûr si c'est le virus respiratoire ou si c'est la grippe, hein. On n'est même pas sûr. Mais en tout cas, je peux dire que ça frappe en maudit, là, des enfants avec de la fièvre pendant 3 jours, couchés, puis plus malades qu'ils ont jamais été. Là, mais ils meurent pas. Tu sais, c'est un tant qu'il y a pas de risque de décès, là, ça reste quand même une grippe, là, je veux dire, ou quelque chose qui y ressemble.
Ah non, mais attends une minute, Luc, parce qu'il y a des effets collatéraux à ça. Prenons l'exemple de Sainte-Justine, là, l'urgence qui déborde. Ben il y a des opérations attendues auprès d'enfants planifiées depuis des mois qui sont reportées. C'est épouvantable. Il y a des familles qui se retrouvent confrontées à des situations pour lesquelles ils n'ont aucune explication en passant. Là, Madame, désolée, Monsieur, désolée, mais on devait opérer votre enfant ce matin, mais on ne peut pas parce que là, les médecins gèrent des cas urgents, c'est-à-dire des enfants qui se retrouvent hospitalisés, puis souvent pas seulement 2-3 jours, là, qui se trouvent hospitalisés pendant plusieurs jours.
Mais je trouve que la meilleure image, c'est Dr Quach qui l'a donnée, en disant... Pendant la première vague, on disait aux plus jeunes, prenez des mesures, portez le masque, allez pas voir vos vieux parents, puis gardez une distance parce qu'ils sont vulnérables. Là, c'est l'inverse. C'est les kids qui sont vulnérables.
Ah, mais là, tu pourras pas empêcher une grand-mère d'embrasser un enfant.
Non, je sais bien, mais...
Ça prend une crowbar pour ça.
Mais Luc, Paul, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce qu'il y a un message que j'entends de plus en plus, c'est celui lié à l'immunité. Là, il y a des gens qui affirment que ça fait 2 ans qu'on protège aux enfants. Bon, pas d'immunité. Ils n'ont pas pu développer leur système immunitaire. Alors là, c'est ce qui explique la situation.
Oui, mais hier, il y a un médecin qui a contredit ça. Qui a dit que non, immunité n'est pas. Ça ne dépend pas du port du masque. L'immunité, d'ailleurs, il dit que c'est sur quelque chose sur plusieurs années, qu'il y a des virus qui sont plus forts que d'autres, il y a des virus qui sont nouveaux, il y a des souches de grippe qui sont nouvelles. C'est plutôt du côté des virus qu'il faut regarder.
Écoute, je ne sais pas quoi. Tu parles de ça, là, mais j'ai plein de courriels de gens qui disent mais on ne mettra pas le masque parce que si on porte le masque, ça baisse nos anticorps. Il paraît que c'est faux.
Mais tu vois ça, là, je soupçonne que c'est genre sauce complotiste, là, machin truc.
Ou juste sauf hypothèse non vérifiée. Là,
c'est ça.
On ne sait pas. On tente cette hypothèse-là. T'sais. Mais moi, hier, j'ai demandé spécifiquement cette question-là. C'était le docteur. Ah, j'ai oublié son nom. Je ne suis pas bon des noms, vous le savez. Hein?
Oui.
Puis il m'a répondu non. Non. Puis en plus, il a rajouté quelque chose. L'immunité, c'est sur plusieurs années.
On s'arrête là-dessus. Au retour, c'est une question importante. Est-ce que quand on a 12, 13, 14 ans, on peut choisir où on va habiter, avec quels parents on veut habiter, et même quand il y a un contexte de violence conjugale?
La commission Normando-Ferrandaise.
Plus tôt ce matin, on parlait avec Maître Schirm d'un jugement de la Cour supérieure dans un contexte de violence conjugale. Des enfants qui voulaient aller vivre avec leur père, 12 et 14 ans. Et le père, évidemment, était l'instigateur d'actes violents. Et normalement, à 12 ans, on t'écoute. Mais là, le juge a dit, ce qui prime, c'est la protection de l'enfant, c'est lui offrir un milieu d'habitation où ça peut se passer normalement, donc dénué d'intimidation puis de violence, ce qui fait qu'il a été contre la volonté des enfants. Est-ce qu'on devrait pouvoir donc toujours choisir à 12 ans, 14 ans, là où on veut aller vivre? Luc?
Moi, je suis sûr qu'on va arriver au bout de cette chronique-là qu'on n'aura pas réponse. Puis que s'il y avait 100 chroniques, on n'aurait toujours pas la réponse. Puis je suis sûr que la juge, elle a certainement... virer la question mille fois dans sa tête, est arrivé à une réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? On le sait pas. Bon, le gars, commençons par situer ce gars-là. Là, c'est un gars qui a juste des défauts. C'est un délinquant, c'est un gars harcelant, c'est un gars qui refuse de payer la pension à sa femme puis qui prend tous les moyens pour pas les payer, elle a payé, y compris abandonner son travail en se disant si j'abandonne mon travail, j'aurai pas de revenus. Puis là le juge dit ouais, mais il va falloir que tu donnes un quart de ton chômage, puis il donne pas le quart de son chômage, puis il doit 4000 pièces, puis il donne pas. Puis il a été menaçant, il y a un passé violent aussi, le reconnu là, causer des lésions corporelles, voie de fait contre un agent de la paix, entrave à un agent de la paix, méfait, voie de fait en 2008 puis 2017, menace de brûler, détruire ou endommager des biens, agression armée. Un moment donné, il se présente à son école parce que son enfant a été pris dans une affaire de il y avait un couteau, il y avait
intimidation.
Puis intimidation puis tout, puis là il dit à la directrice qu'il va ci puis qu'il va ça, puis à les enfants, puis les parents d'enfants mode ci puis mode ça. Tu sais, comme tu vois le gars là, tu vois le personnage hyper trouble. On dirait qu'il n'y a rien de bon. Mais il est pas violent avec ses enfants. Ça, c'est un. Deux, ses enfants veulent vivre aussi avec lui. Et donc, ce que ça me dit, moi, c'est que l'exemple qu'il donne de vie c'est un très, très mauvais exemple de vie. Puis peut-être que les enfants font erreur en disant qu'ils veulent vivre avec lui. Puis moi, j'ai connu un cas où un enfant était à la recherche de l'amour de son père, puis maudit qu'il aurait dû à un moment donné dire non, c'est fini. Je veux plus être en contact avec ce gars-là. Il aurait dû dire ça. Puis il l'a jamais dit. Il a tout le temps. Fait que tu peux pas te fier à la parole de l'enfant. Mais non plus, tu peux pas décider, une fois pour toutes, que ce gars-là a aucun rôle à jouer dans la vie de cet enfant-là. C'est-à-dire que, au-delà de la volonté de l'enfant, de dire, oui, mais c'est pas bon pour toi. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'on voit pas qui sont bonnes pour lui.
Luc, tu dis, tu ne peux pas te fier à la parole de l'enfant. Moi, je dis des fois, oui, tu peux te fier à la parole de l'enfant. Dans certaines circonstances, oui, dans certaines circonstances, non. D'ailleurs, je reproche aux tribunaux, malheureusement, trop souvent, de ne pas avoir tenu compte du désir de l'enfant. Dans ce cas-ci, ta question, Paul, c'est est-ce que des enfants de 12 et 14 ans devraient pouvoir choisir où ils habiteront? Moi, je réponds oui à ça. Théoriquement, oui, à 12-14 ans, là, tu sais ce que tu veux dans la vie, là. T'es assez grand pour prendre une décision. Sauf que cette cause-ci, ce qui est assez particulier, c'est que, après avoir lu la décision comme toi, Luc, on s'est rendu compte que ces pauvres enfants étaient pris entre l'arbre et l'écorce, entre leur devoir de loyauté envers la mère, d'un côté, leur devoir de loyauté envers le père. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les enfants voulaient retourner voir leur père, vivre avec leur père, parce qu'ils voulaient, de cette façon, mettre fin au conflit entre leurs parents. Mm-hmm. C'est assez incroyable. C'est triste, c'est immensément triste que des enfants soient prêts, dans le fond, à vivre des situations qui leur est préjudiciable parce que le père, après toute la description que tu as fait, là, le bonhomme, j'appelle le bonhomme là, parce que c'est un méchant malade, le gars, là, le bonhomme, il ne s'intéresse absolument pas à ce que ses enfants font à l'école. Il a zéro intérêt à s'impliquer dans leur éducation. Alors, mais le petit garçon qui est plus problématique dans le couple, lui, s'identifie à son père, comme souvent les petits garçons vont le faire. Alors, quand j'entendais Maître Schirm tantôt dire c'est une décision importante parce que finalement, ce qui témoigne, c'est que l'intérêt de l'enfant qui, en principe, doit primer sur tout, doit avoir préséance sur tout. C'est la modification qui est apportée à la loi sur la protection de la jeunesse. Dans certaines circonstances, ben, ça sera peut-être pas si évident, là. Et, moi, je salue cette décision parce qu'on voit bien que c'est une décision qui avantage, en bout de ligne, les enfants, mais qui est tout en compromis parce que la mère conserve le droit de garde durant l'année scolaire. Et le père peut les voir 3 fins de semaine sur 4. L'été, il les voit une semaine sur 2. Alors, et puis, il y a toutes sortes, là, d'engagements qu'il doit prendre, entre autres, de payer son retard pour ce qui est de la pension alimentaire. Est-ce que cette décision-là fait avancer la cause des enfants? Je pense que oui. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier le pourquoi de cette grande commission qu'a présidé Régine Laurent. C'est qu'on veut protéger davantage les enfants. Puis malheureusement, dans nos tribunaux, il y a encore des cas de mères, par exemple, qui se battent pour retirer au père des droits de visite à des enfants qu'ils ont soit abusés, soit maltraités, des enfants qui reviennent de chez leur père complètement chamboulés, traumatisés. Je pourrais parler aussi des mères qui sont aliénantes, qui font de l'aliénation parentale à l'endroit de leurs enfants, dénigrant le père. Là, il y a trop de cas de figure comme cela encore qui existent aujourd'hui et qui mettent en lumière le fait que les enfants, en toutes circonstances, malheureusement, ne sont pas protégés comme ils le devraient par notre système.
Luc, moi, la raison pour laquelle je dis qu'on trouvera pas la réponse à cette question-là, en fait, la bonne réponse dans tous les cas, peut-être que dans ce cas-là, la réponse, Maître Chirme l'a trouvé, mais dans la bonne réponse dans tous les cas, c'est que d'un côté, la violence, ce n'est pas simplement le fait d'exercer de la violence sur quelqu'un et le prendre par le cou, puis frotter les cheveux ou lui donner un bon coup de poing sur la gueule ou quelque chose de même. La violence, elle est définie par la loi comme un ensemble d'éléments qui mettent l'enfant en situation de perte de confiance en lui, dans le monde. Ça peut être des lésions corporelles, mais ça peut être aussi le défaut de fournir les choses nécessaires à l'enfant. Ça peut être briser des biens. Ça peut être une exploitation financière de la mère. Tout ça, c'est de la violence. Puis lui, il en a fait preuve de violence. Ça, c'est clair, net et précis. Mais d'un autre côté...
Mais qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi dans la décision? Parce que moi, un enfant de 12 à 14 ans devrait pouvoir choisir où il veut habiter. Là.
C'est un père...
Si tu ne tiens pas compte du contexte...
C'est un père toxique, là, on s'entend.
Oui, on s'entend.
Mais c'est ça, j'ai commencé par décrire la toxicité puis la violence. Mais de l'autre côté de la médaille, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut être aimé par un con et on peut aimer un con.
Oui,
Quelqu'un
c'est complexe.
C'est parce que père manquant, fils manqué. Peut-être que ce gars-là, il a tous les défauts de la terre. Mais que l'enfant préfère avoir sa présence que de ne pas l'avoir.
Mais c'est précisément pour cette raison que la décision du juge est tout en nuance, là. Parce que la mère, ce qu'elle souhaitait, c'est que ses enfants, qu'elle ait la garde exclusive de ses enfants. Elle veut pouvoir le père dans le décor parce que le père, dans le fond, il se sert de ses enfants pour continuer de contrôler son ex-conjointe, qui est en passant un pattern qui n'est pas nouveau. Là.
Mais tu places les enfants dans un conflit de loyauté. C'est épouvantable.
C'est épouvantable.
C'est des enfants qui témoignent en cours à 12, 13, 14 ans pour dire « je préfère aller vivre ». Tu dis, mais pourquoi? C'est arrivé comment? Dans quel contexte?
Écoute, c'est compliqué. Puis en plus, ce gars-là, pour ajouter à l'ensemble de ses défauts, au début, ça ne dérangeait pas d'être privé de ses enfants. C'est quand il a fallu qu'il paye une pension alimentaire que là, il a dit, moi, je veux la garde. Fait que là, évidemment, ça rajoute à ses défauts. Mais ceci étant dit, il y a des choses qu'on ne lit pas. Quand le gars, il est débarqué à l'école, puis qu'il a dit, moi, tout vous ci, puis moi, tout vous ça. Puis s'il y en a un qui touche à mon fils, il va le passer par
la fenêtre. Il a menacé des élèves dans un autobus au couteau.
Mais quand il a dit tout ça, cet enfant-là, sur son lit de mort, il va dire, mon père, c'est un gros cave. Mais Chris, il a voulu prendre ma défense. Il y a un sentiment positif quelque part là-dedans. Il y a un sentiment, l'enfant, là, il se dit, mon père, il a tous les défauts du monde, mais il m'aime. C'est ça qu'il se dit, l'enfant. Puis ça, un juge peut pas vraiment aller dans ce détail-là de la psychologie d'un enfant.
Mais je suis d'accord avec toi, sauf que ce que je voudrais mettre en lumière, puis quand tu dis, Paul, on place les enfants souvent dans un conflit de loyauté lorsqu'il vient le temps de témoigner au tribunal, il faut que la voix des enfants soit davantage entendue. Parce que la voix d'un enfant de 12, un ado de 12 et 14 ans, pas trop de problèmes. Mais lorsque c'est un enfant de 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Des fois, on a tendance à, tu sais, c'est pas si important que ça, ce qu'ils pensent. Pourtant, c'est fondamental.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.